Bienvenue dans ce catch-up numéro 49 des Cahiers du Catch, le podcast officiel qui vous parle de Monday Night Raw toutes les semaines avec passion, avec humour. Nous sommes... je suis Hank, tout d'abord, je suis El Patron, si
nous sommes un peu,
nous sommes Hank, hashtag nous sommes Hank. Aujourd'hui nous avons les deux comparses qui m'ont accompagné la dernière fois, c'est-à-dire monsieur Raphaël, d'abord.
Et oui, c'est moi, je suis encore là, salut à tous.
Voilà, invité exceptionnel pour la deuxième fois, de moins en moins exceptionnel. Mais non, du coup, Armbar, l'amiral.
Salut.
De son nom.
De son prénom.
De mon état civil, oui.
Voilà, de son état civil. Et aujourd'hui, on va vous parler du Raw post-WrestleMania, le Raw du 3 avril, le Raw qu'il ne fallait pas manquer. Et là, c'est même pas un slogan, c'est pas une catchphrase ou quoi que ce soit. On n'a pas sorti les dossiers de presse de la WWE. Vous allez voir que ce Raw était assez incroyable. Ça a commencé avec un public chaud, bouillant, public de Orlando qui était un petit peu à son top de la smartitude pendant toute la soirée. Hein. Je crois qu'on pourra difficilement trouver un public plus smart que ça. Dans le bon et le mauvais. Donc là, ça a commencé avec simplement un plan silencieux du public qui gueule des Undertaker, tout d'abord. Undertaker, hein, bien sûr, parce que Undertaker, si vous n'avez pas vu WrestleMania, déjà, allez voir notre review de WrestleMania. Magnifique review effectuée par monsieur Yerem, monsieur Giscal, monsieur Ringside. Et moi-même, donc voilà, une vidéo incroyable, pleine de spectacles. Et
une revue formidable que je n'ai pas encore vue, mais pareil qu'elle est géniale.
Donc voilà, sur le YouTube, iTunes, tout ça. Et donc, l'Undertaker qui a pris sa retraite. L'Undertaker qui a perdu contre Roman Reigns, le Big Dog, le gros chien a mangé l'autre gros chien. Le Yard est désormais au Samoan. Ce public qui gueule Undertaker comme ça pendant bien une minute trente, avant que une espèce de... Oui, non, mais je voulais dire par rapport à la progression, au bout d'une minute trente, on a ces Roman Sucks qui s'infiltrent entre chaque Undertaker.
Qui prennent le pas, ouais.
C'était très beau.
Roman Sucks!
Et c'était vraiment en crescendo comme ça. On aurait cru un véritable orchestre de Smart, hein, finalement.
Ah, ça aurait pu être scénarisé, ouais.
Et donc, les Roman Sucks qui montent et qui couvrent, finalement, qui étouffent Undertaker. Là, il n'y avait plus que les Roman Sucks au bout d'un moment. Et puis, quand ce Roman Sucks résonne à son maximum, eh bien, c'est Roman qui arrive. Roman.
Quel bon timing!
Le timing était magnifique. Cette séquence est incroyable. Je vais continuer. Donc, au moment où il arrive dans le ring, donc il a un micro, mais il le prend pas direct, le micro. Il prend pas, il regarde quand même le public. Et le public qui lance désormais des 10 bits. Puisque Matt et Jeff Hardy sont revenus à la WWE la veille. Broken Matt Hardy, même s'il est plus très broken depuis qu'il est revenu là, mais voilà, le public lui fait des divit comme ça pendant une minute, puis voilà, on se dit bon, ça va se calmer au bout d'un moment, et puis là ça enchaîne sur Fuck You Roman.
Fuck You Roman,
voilà. Fuck you Roman pendant une autre minute 30, et puis ensuite il y avait You Suck, oui. Et puis ensuite il y avait Asshole, et puis ensuite il y avait Shut the fuck up.
Première fois j'entends ça, je crois, Shut the fuck up dans un ring.
Go away.
Oui, voilà. Et le Shut the fuck up pile au premier moment où Roman Reigns a monté le micro vers sa bouche pour parler, et il avait quand même attendu bien 7 minutes avant, hein, 7 minutes. Donc Roman qui se contient un petit peu, j'avais entendu aussi dans un autre podcast, et en remettant la séquence vite fait, Il se contient un peu de rire. Hein. J'ai l'impression qu'il est, il est quand même. Bon, voilà, il connaît la chanson, quoi. Mais là, là c'est la hit de l'extrême.
C'est l'apogée. Donc,
jamais vu ça.
Ouais, moi, et moi, alors là, je ravale totalement mes mots parce que j'ai fini la review de WrestleMania en disant que finalement, Reigns s'était pas fait. Était pas si haï que ça à la fin de ce match du Taker parce que tout le monde était vraiment sous le coup de la fin de la carrière, voilà. Et qu'il y avait pas cette colère, et finalement, en fait, la colère, elle a pris, elle a pris 12 heures, enfin, non, pas 12 heures, elle a pris 24 heures à monter. Et puis, donc voilà, shut the fuck up quand il lève le micro, ensuite go away, et puis au bout d'un moment, quand même, Roman, il lève le micro et il dit, This is my yard now. Et il drop le mic, il s'en va, tel un magnifique enculé.
On n'a pas de preuve, on n'a pas vu le sextape de Roman Reigns, on ne sait pas si c'est un enculé. C'est un enfoiré, ça c'est clair, mais l'enculé, on n'est pas sûr.
Non, mais voilà. Après, on peut toujours douter de la WWE qui arrive comme ça, une fois tous les 6 mois, à nous rendre Roman Reigns badass et charismatique. Mais c'était une séquence vraiment incroyable. Vous en avez pensé quoi? Je vais commencer par Raphaël.
Bah, tu l'as dit, incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça de mémoire de ma. Alors, j'ai compté, c'était mon 10e WrestleMania. Tiens, donc je vais peut-être faire un papier pour résumer mes 10 WrestleMania de fan. Mais ouais, j'ai une hit, putain, mais qui n'en finit plus. Un public qui n'en finit plus de trouver des nouvelles choses à lui dire. Enfin, il aurait pu rester 20 minutes. Il serait peut-être pris à insulter sa mère, sa tante, ses enfants. J'en sais rien, moi, les Samoans sont tous des PD, ou je sais pas, moi, enfin, on aurait pu trouver plein de trucs, ça aurait pu durer 20 minutes, et je pense qu'on s'en serait pas lassé, quoi. Et, non, c'était. Comme mais paradoxalement,
enfin, quand même au bout d'un moment.
Peut-être nous à la télé, mais dans le public, ils étaient chauds, quoi. Ils avaient vraiment pas envie de laisser parler, et c'était.
Ah non, c'est clair. Ouais.
Moi, paradoxalement, ça. Ça en a fait un bon moment, ouais.
J'ai compté, ça a duré 8 minutes entre le moment où la musique de Roman Reigns a retenti jusqu'au moment où il a lâché sa phrase, il y a eu un peu plus de 8 minutes, donc d'insultes, etc. Ouais, complètement fou. Il faut savoir quand même que c'est dans la même ville que WrestleMania. Donc, ce que tu disais, ouais. Que le public la veille à WrestleMania n'avait pas trop hué Roman Reigns parce que sous le coup de voir le Taker déposer son chapeau, ses affaires, etc., prendre sa retraite symboliquement, ils étaient dans l'émotion. Et c'est quasiment le même public, je pense que les gens qui étaient là à Raw étaient là pour la plupart à Mania la veille, où on regardait oui, Mania dans tous les cas.
D'ailleurs, cet après-midi, j'étais en train de regarder, par curiosité, pour l'année prochaine, les packages de WrestleMania, et la majorité des places, je pense, pour Mania, elles sont vendues avec des t'as une place pour Raw, une place SmackDown. Pour SmackDown.
Donc ouais, c'était complètement fou. Maintenant, voilà, faut voir ce qu'ils vont faire, c'est pas clair encore ce soir, après avoir vu l'Euro. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Parce que le fait que Roman Reigns ait gagné contre Taker, le seul à avoir gagné contre Taker à part Brock Lesnar à Mania, c'est pas rien. Le Taker, l'icône, forcément celui qui le bat, eh ben, il est pas à la fête. Roman Reigns, on connaît les problèmes qu'il a avec le public. Est-ce que la WWE va capitaliser et vraiment le pousser et utiliser cette haine du public? Parce que c'est même plus de la hit de heel, c'est une haine en fait. Ça va au-delà ouais. De la hit, c'est de la hit nucléaire en fait. C'est pas la même chose quand ils insultent genre un Kevin Owens parce que c'est un salaud d'avoir trahi Jericho. C'est pas cette hit-là, c'est un peu la même hit que Batista quand il gagne le Rumble à la place de Daniel Bryan et que tout le public ouais. Est là et scandalisé. C'est un peu ça quoi. C'est en fait on n'est pas d'accord.
Quoi. On veut pas le voir lui quoi. C'est ouais. Comme a pu même avoir ça n'a rien à voir mais comme a pu prendre Eva Marie ou des trucs comme ça, c'est vraiment des broncas, des putains
après je pense pas que Reigns je pense que c'est... si tu demandes à un fan, un de ces smarts, honnêtement, si Reigns est une sous-merde au catch, il dira, enfin, je veux dire, personne peut dire ça, quoi.
Non. Bien sûr que non. Même si dans le match hier, on en avait parlé, mais comme Roman Reigns, il fait des bons matchs quand il est leadé par quelqu'un qui prend en main le match, et là, c'était pas le Taker qui allait pouvoir le faire, question de physique, le match niveau cachesque, il était pas sans sas. Il y avait le symbole, il y avait l'émotion, il y avait le côté nostalgie de voir le dernier match de Taker, un côté un peu impitoiement. Mais là, ouais, il est vraiment détesté au plus haut point, quoi. Comme tu dis, c'est pas Roman suck, c'est you suck, et go away, shut the fuck up. C'est super violent quoi, c'est hallucinant. Donc est-ce qu'ils vont capitaliser là-dessus et vraiment faire de Roman Reigns un mec ultra badass qui fait bah je m'en fous de tout, je m'en fous même du public maintenant, peut-être le mettre vers le côté heel, sans forcément lui qui essaiera de tricher, mais un mec à l'inverse oui, du voilà. public, à contre-courant du public, ou est-ce qu'ils vont encore essayer de nous le faire, genre, bah, vous vous rappelez il y a quelques temps, hein, je suis pas un méchant gars, je suis pas un gentil gars, je suis le gars. Et qui vont, vont encore essayer de nous le faire, finalement, non, je suis pas vraiment heel, je suis toujours face, je suis poster boy, je suis Roman Reigns, quoi.
Mais deal with that. C'est ça que. Tu disais quoi?
Deal with that. Ce que disait Batista après le Rumble, Brian, il fait ouais, faites avec quoi. Voilà.
Non mais c'est ça. Il y a que ça qu'ils peuvent faire avec lui parce que tout le monde dit il turn. Là maintenant ça sert plus à rien. Là ils sont arrivés à un stade où ça marcherait pas de le rendre heel parce que finalement il manque pas grand chose pour finalement finaliser son personnage qui est juste un mec arrogant, mais qui est arrogant sans être lâche ou sans être finalement qui est juste le prototype du heel qui est égoïste, mais qui a pas vraiment d'autre côté heel quoi. C'est juste qu'il est ultra égoïste quoi. Ouais. Reigns c'est tout ce qu'on décrit comme des incohérences, comme des problèmes avec Reigns, ils viennent tous de l'égoïsme finalement du personnage.
Ouais, ouais complètement. Côté très supérieur, arrogant, comme tu dis, c'est vraiment ça, c'est vraiment le big dog. Alors faut qu'ils aillent à fond avec ça. Je sais pas trop où ça va mener. C'est peut-être sortir du cadre du face et du heel. Peut-être c'est une sorte de tweener en fait, hein, nouvelle génération. Ouais. S'ils se retrouvent face vraiment à un gros salaud dans le ring, et ben il va être plutôt en position de face. S'ils se retrouvent face à un chouchou du public, il va être plutôt en position de heel, sans pour autant tricher. Mais voilà, il a. S'il avait voulu faire un heel méchant classique, eh bien il aurait fait la veille à Mania. Il aurait donné des coups de chaise vraiment sadiques, il aurait vraiment détruit le Taker physiquement de façon horrible. Ce qu'il n'a pas fait, il avait un petit côté quand même respect malgré tout dans le combat, donc il est clairement pas heel, ça c'est clair, mais il peut pas être face non plus. Donc, mais là, cette séquence là pour moi ce soir montre qu'enfin la WWE s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas changer de public par rapport à Roman Reigns et qu'ils vont essayer de s'en servir pour faire quelque chose. Donc, à voir s'ils vont réussir, mais en tout cas, je pense qu'ils ont conscience de ça maintenant.
De toute façon, pour moi, un alignement heel ou face, c'est aussi, bah, comme tu viens de dire, hein, l'amiral, en fonction de qui t'affronte. Hein, si tu vas affronter un gentil, t'es un méchant, c'est souvent comme ça. Et là, l'erreur qu'ils peuvent faire, et on va en parler plus tard, c'est s'ils persistent à le faire en face, de le mettre face à des méchants, quoi.
Et ben justement, on va passer, parce qu'on a passé quand même assez de temps sur cette séquence, on va passer directement à l'autre séquence qui était reliée à celle-ci, c'est Lesnar qui revient ce soir célébrer sa victoire contre Goldberg. Le temps que je retrouve dans mes fiches ce passage. Donc voilà. Donc il a renvoyé Goldberg chez sa maman à WrestleMania et tout le monde est très content. Hein, le public l'acclame. Et puis donc du coup il y a Heyman qui son porte-parole qui vient faire un petit discours en mode un peu Fable de La Fontaine sur le parcours de Goldberg depuis son arrivée. Il annonce que c'est la fin du compte et que c'est une fin très très heureuse puisque Goldberg ne reviendra plus à Monday Night Raw. Et à ce moment-là, Heyman, il se tourne vers le futur. Il dit qui seront les possibles opposants, hein, parce que ma bête a besoin de challenge. Donc il dit Seth Rollins, ça fait une très belle prestation la nuit dernière contre Triple H. Et puis il y a aussi le retour des Hardy. Alors qui a envie de voir Matt Hardy contre Lesnar? Qui a envie de voir Jeff Hardy contre Lesnar? Ou pourquoi pas carrément la tag team les Hardys contre Lesnar? Mais finalement il arrive au seul autre homme qui est dans le 21 and 2 ou 22 and 2
23 yeah.
23 and 2. Oh là là, chaque fois, je me souviens pas du nom. Du
numéro. Ça change tous les ans. Ça ne change plus maintenant.
Donc voilà, 23 and 2. 23 victoires du Taker. Seulement 2 défaites. Une défaite contre Lesnar. Une défaite contre Roman Reigns. Et donc après beaucoup d'allusions, et ben il regarde la caméra et dit et je parle bien sûr de toi Roman Reigns, et je sais que depuis que t'as gagné contre le Taker tu fais le malin dans le vestiaire à aboyer des ordres comme le big dog que tu es. Pendant ce temps là le public gueule We want Balor. bizarrement. Et donc, Heyman annonce que ce combat Lesnar contre Reigns pourrait même arriver juste ce soir pour régler le problème direct. Sauf qu'à ce moment-là, c'est Braun Strowman qui arrive. Il vient chercher des crosses à Lesnar et il lui dit apparemment Reigns a ton attention, mais quand j'en aurai fini avec Roman, j'aurai peut-être la tienne. Et en tout cas, tu as mon attention, dit-il en mettant la main sur la ceinture universelle de Lesnar, même en le poussant un petit peu avec. Et puis le public est à fond, hein. Le public est énormément fan de Braun Strowman, sa gueule du Braun. Et Lesnar rentre dans le marché, il fait oui, bah, pourquoi pas, il pose sa ceinture par terre et puis il fait vas-y. Monte tes couilles et puis il le met au défi, mais Braun fait à peu près comme d'habitude ces derniers temps, c'est-à-dire qu'il part en disant ce sera quand je veux, enfin où je veux et quand je veux, et donc il s'en va et le public crie bullshit. Voilà, donc ça c'était la deuxième partie de
cette
storyline Reigns Lesnar. Donc on a un triangle amoureux, ouais. Roman Reigns, Lesnar et Braun Strowman. Qu'est-ce que vous avez pensé de la séquence et vos perspectives? Je vais commencer par Monsieur Armbar.
Bah, c'est une sextape en prévision pour Vince McMahon, hein, un triangle amoureux comme tu dis entre trois gros balèzes, Lesnar, Braun Strowman et Roman Reigns. Là Vince il est tout content. Oh là là, oh my god, I love this. Ouais, alors après pourquoi pas ce match à trois ou les configurations entre les trois, y a pas de souci, ça peut donner un duel de titans réellement. Après je suis un peu gêné que au lendemain de sa victoire pour le titre universel, Lesnar par la bouche de Heyman disent bah en fait moi ce qui m'intéresse c'est parler de Roman Reigns, alors que je sais pas, ils auraient pu faire un peu autre chose. Ça recristallise encore tout sur Roman Reigns. Je pense que c'était pas forcément dans cet angle là qu'il fallait peut-être en parler. Peut-être que c'était plus à Roman Reigns d'aller chercher Lesnar plutôt que Lesnar et Heyman s'abaissent vers ça, même si Heyman a une bonne ligne, hein. Il dit oui, si Roman Reigns est le gros chien, eh bien Brock Lesnar c'est de la cruauté animale. Donc ça c'était plutôt pas mal envoyé, donc à voir. Maintenant voilà, je trouve que c'est un peu dommage que ça soit Lesnar qui vient chercher Reigns, c'est pas l'inverse.
Ouais, bah, je suis assez d'accord. Je pense que Roman Reigns, dans son discours hyper heel, il aurait pu rajouter un This is my yard, un No, I will be champion again, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ça aurait été un peu plus logique. Et effectivement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, moi ce segment me fait un peu peur parce que Lesnar est totalement booké heel, Braun Strowman plutôt aussi, donc ça remettrait Reigns dans une équation face à des méchants. Donc pas très bonne idée je pense. Moi là je l'ai plutôt vu, je connais pas du tout le programme de Lesnar de ces prochains mois, hein, mais comme une justification qu'on allait se taper sûrement au prochain pay-per-view un rematch Strowman-Reigns et pour laisser Lesnar un petit peu en vacances puisque catcher deux pay-per-view d'affilée, je sais pas s'il est capable, donc pour nous justifier un peu qu'on allait avoir un match pour le titre d'ici 2-3 mois, mais je sais pas.
Ce qui est embêtant, enfin c'est assez logique comme scénario. Ce qui est embêtant dans ce scénario, c'est que ça va être une nouvelle défaite de Strowman et du coup. Bon après moi je la voulais cette feud Reigns Strowman, on l'a pas eu. C'était pas une feud pour moi, c'était un match.
Un apéritif.
Voilà.
Un teaser.
Si on a ça déjà, moi ça m'intéresse déjà. Mais par contre, autant avant WrestleMania, j'aurais dit Reigns qui récupère Strowman, enfin pas contre Strowman, ça m'aurait vraiment pas trop branché, etc. Mais j'avais pas du tout vu la perspective des deux gagnants contre le Taker. Je trouve que c'est vraiment une bonne. C'est vraiment une très bonne justification. Après, c'est aussi une justification qui limite mérite pas de ceinture aussi. Donc, c'est une nouvelle fois
ça fait sens parce que finalement, quand tu réfléchis, ils sont affrontés à Mania il y a quelques années pour le titre. Hein. Ils ont pas pu finir leur match puisque Seth Rollins, l'architraître, avait encaissé sa Money in the Bank. Donc finalement, il y a un match de titre entre eux qui a été interrompu, qui a jamais été terminé. Donc ça, plus le fait que ce soit les deux qui aient battu Undertaker à Mania, ça fait une logique pour effectivement qu'il y ait un match. Après qui est titre en jeu, bah ok, pourquoi pas, de toute façon c'est assez logique finalement, les deux sont tellement à des niveaux importants que il y a de grandes chances que l'un des deux à un moment donné quand ça se passe ait le titre en main, donc ça c'est pas très grave.
Et comme ça même si on adore pas, enfin du moins on n'a pas adoré Reigns champion, comme ça au moins le champion sera quelqu'un qui est là toutes les semaines.
Ouais.
Bon, on va passer quand même aux autres matchs parce qu'il y en a, il y a quand même beaucoup d'autres choses à raconter. Donc juste après l'intro que je vous ai raconté là, donc du coup qui était avec Roman qui se faisait conspuer, nous avons eu un très beau match tag team, le club, donc Gallows et Anderson contre les Hardys, nouveau champion tag team de Raw, hein, on vous le rappelle, ils sont arrivés par surprise à WrestleMania, annoncés par les New Day. Et donc, ce match, je vais vous le raconter un petit peu quand même. On va fêter sur Raw. Donc, c'est une grosse domination de Matt Hardy sur Anderson au départ. Il se fait vite piéger néanmoins par le club. Et c'est au tour de Gallows de prendre le dessus sur Broken Matt. Le public de Smart gueule « Welcome back » et « Fuck that owl », qui est une référence à leur match, je crois, contre les Young Bucks la veille de WrestleMania. Enfin bref, un vrai truc de Smart. Donc sa gueule aussi obsolète et c'est Jeff Hardy qui réussit à taguer et prendre le dessus en casant un atomic drop, donc je crois sur Gallows. Il fait un magnifique spot en se propulsant des escaliers en fer sur Gallows qui était le long de la barricade, hein. Ça c'était assez créatif, hein. Une nouvelle fois on rappelle aux commentaires que Jeff Hardy c'est le roi de la créativité dans le ring et autour du ring. Le club prépare un Magic Killer sur Jeff, mais c'est Matt qui intervient et case un Twist of Fate, puis une Swanton Bomb sur Gallows et le tombé, victoire des Hardys. C'était un bon match.
Ouais, c'était cool, hein. C'était cool. Donc effectivement, on revoit de toute façon Jeff Hardy faire des Swanton pour gagner un match à la WWE. Ça faisait depuis très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, donc c'est une bonne nouvelle. J'ai bien aimé aussi finalement sur ce match-là, plus que les Hardys et leur créativité, tu l'as dit. C'est la prestation du club. Je trouve que c'est peut-être un de leurs meilleurs matchs depuis leur arrivée dans le main roster. Et c'est dommage parce qu'il a fallu attendre d'avoir des adversaires comme les Hardy pour qu'ils puissent montrer un peu ce qu'ils faisaient. Le moment où ils font leur boot of doom sur Jeff est vraiment super bien enchaîné, c'est fluide, c'est impactant. Donc les deux équipes ont bien roulé. Je pense que les Hardy ont besoin d'un peu de temps peut-être pour se remettre dans les standards de la WWE. Il y avait quelques moves qui étaient manquaient un peu de fluidité par rapport à avant, mais bon, dans tous les cas, voilà, c'est la hype, hein, de WrestleMania, le grand retour, donc je pense que ça va être du bon, ça c'est clair. Hâte de voir aussi leur gimmick, comment leurs gimmicks vont se poser, puisque bon, tu dis Broken Matt, mais c'est plus Team Extreme, Matt Hardy.
Oui, hein. Broken. Il a encore la coiffure.
La mèche, ouais, c'est clair. Donc, mais c'est quand même plus le gimmick qu'ils avaient avant, hein, de partir la WWE à l'époque où ils étaient en trinôme avec Lita. Mais voilà, donc en tout cas, faut voir comment ils vont épouser le cadre et le roster de WWE, mais welcome back les gars, ça fait plaisir, ouais.
Et je précise juste troisième match en trois jours, hein, quand même. Ouais. Ça fait trois soirs, hein, qu'ils catchent, donc ils sont un peu massacrés, je pense.
Ils sont rincés, ouais.
Ouais, ouais, mais gros kiff quand même. Moi, je n'étais pas de votre review WrestleMania, mais je le dis et je le crie. Hein, c'était un putain de moment. C'était le meilleur moment de WrestleMania de les voir arriver enfin. Et puis, ça fait plaisir, un petit match. Alors moi, je l'ai pas trouvé spécialement cette rencontre exceptionnelle, mais comme ça, ils ont vite soldé le club. Donc ça remet un petit peu à zéro niveau rivalité pour leur ceinture. Ça fait plaisir de les voir titrés. Ils ont l'air d'être assez en forme. Hein, sportivement, ils ont fait quelques moves sympas. Mmh. Après, niveau gimmick, je sais pas trop où ils en sont. Il y avait une question de droit, la TNA disait que c'était à eux, à Broken et tout. Donc à mon avis, ils gardent sous le coude, hein, avec la coiffure. Et puis c'est pour ça qu'ils partent pas dans une autre gimmick à fond comme ça. S'ils arrivent, ouais.
Non mais c'est le flottement on voit en ce moment parce que Matt il est autorisé à lancer des delete, tu vois, genre il regarde le public, il fait comme ça et là c'est parti hein, pendant une minute
c'est
delete.
Mais c'est juste un geste, donc du coup c'est pas comme s'il disait wonderful, donc je sais pas, il joue avec ça et je pense que ça suffit en fait, le public qui de fans qui ont suivi ce qu'on fait la TNA,
bien, du coup,
juste de voir Matt Hardy comme ça et faire un geste comme ça, c'est bon, ils sont partis pour obsolete, delete, Brother Nero, etc., ça suffit. Mais niveau gimmick, pour moi, c'est très clair. Hein. Ils ont repris la team song, l'attitude, les gestes de Matt, de Jeff, de la team Extreme à la vieille époque. Hein. Donc, leur gimmick, elle est assez claire. Et d'ailleurs, dans le Raw Talk qu'on voit juste après Raw, ils sont interviewés. C'est évident que c'est ça. Hein. Enfin, ils sont clairement dans ce gimmick-là. Donc, il n'y a pas de, pas de doute sur ils sont broken ou pas dans le Broken Universe pour l'instant. Non. Il n'est pas dans la WWE. De toute manière, il ne s'intégrerait pas comme ça. Il faudrait l'adapter. Donc,
voilà, ouais. Il flotte un peu, mais je pense que s'ils arrivent à, je sais pas, on va récupérer un thème song ou je sais pas ou des trucs, enfin je sais pas comment ça se passe au niveau des droits, on est aux États-Unis, c'est le bordel, peut-être qu'ils vont intégrer petit à petit, mais en même temps ils en ont pas besoin effectivement.
Non, je suis un peu déçu, mais par contre pour le club hein, qui se font dégager très rapidement, même s'ils ont fait un match qui était pas long là mais qui était assez intense entre deux équipes à ce rôle, le match était cool pour ça, en peu de temps il s'est passé plein de trucs dans le ring, ça c'est cool, mais c'est vrai qu'ils sont dégagés de title picture très très rapidement, donc
Ouais, mais il faut remettre tout à zéro là par rapport à la semaine prochaine, on va en parler.
Ouais.
Ouais. J'imagine. Juste après, on a eu Neville qui a pris le micro. Neville qui a gagné son match contre Austin Harris en pré-show de WrestleMania. Un très très joli match, hein, on vous le conseille. Enfin, du moins, je vous le conseille, moi. Au tour de Neville d'être au micro. Il rappelle que Austin Harris est un meilleur parleur finalement qu'un fighter, qu'un combattant. Et il dit qu'il fêtera sa victoire à 205 Live. Histoire une nouvelle fois de nous faire regarder 205 Live. Mais ce soir, il va prouver une nouvelle fois. Et là, il est coupé direct par Mustafa Ali qui arrive donc du coup pour le match Neville contre Mustafa Ali. Donc Mustafa Ali qu'on n'avait pas vu à Raw depuis trois semaines. Mais qui était quand même en position de force hein, à chaque fois qu'on l'a vu c'est un mec on sent qu'il le push quand même un petit peu dans ce match donc Neville domine mais Mustafa case un joli Rollin neckbreaker qui lui donne espoir par contre le public j'ai trouvé on avait un peu rien à foutre et gueulé n'importe quoi, je crois que c'est à ce moment là qu'ils ont commencé le beach ball mania hein, parce qu'il y avait des beach balls dans la salle, il y avait deux ballons gonflables qui se traînaient et puis alors là c'était toute l'attention du public hein. Donc un public presque insultant hein, vis-à-vis de ce match et on le rappelle aux commentaires de Raw d'ailleurs les commentaires de Raw ce soir étaient très orientés vers le public, c'était bizarre hein. Ils prenaient conscience de tout ce que le public gueulait hein, tout le temps
Dès le départ ils ont dit oui c'est le soir après WrestleMania, le public est complètement fou, ils vont huer des mecs qu'ils n'huent pas d'habitude, ils vont aduler des mecs qu'ils n'huent pas d'habitude, ils veulent streamer leur voix, c'est leur soir.
Ils font jamais ça pendant l'année, c'est vraiment aujourd'hui.
Oui,
c'est que ce soir.
D'habitude,
c'est comme les Américains font opposite day. Neville continue de dominer. Il fout à un moment une énorme clothesline hein, sur Mustafa Ali qui fait assez peur. Et donc Neville, un peu plus tard, gagne avec les Rings of Saturn, après avoir fait semblant de faire un Red Arrow, mais en regardant le public, il a fait, il mérite pas ça. Un joli match. Bon, vraiment une petite phrase. Si vous avez une petite phrase à dire là-dessus, mais
ouais, des jolis moves, hein, comme tu disais, Mustafa Ali, il a fait un joli Spanish Fly aussi à un moment donné, un moonsault de la deuxième corde enchaîné, et puis voilà, j'ai bien aimé à la fin de Neville qui fait style le Red Arrow, et puis il fait ouais non, voilà, pas pour vous. Donc ça c'était plutôt cool et on apprendra donc du coup que le lendemain il y a un Fatal 4-Way pour décider le first contender entre TJ Perkins, Gallagher, Mustafa Ali et Austin Harris. On peut même dire que c'est Austin Harris qui a gagné d'ailleurs ce first contender, donc ça relance Neville versus Austin Harris pour le prochain match de titre.
Ça, j'avais pas
Le mec, il nous spoil, quoi. Non, mais moi, je voulais regarder 205 Live, comment je vais faire?
Pas
grave. Non, mais si. Ouais, non, sinon très beau match. Alors, moi j'ai trouvé, ouais, c'était un moment bizarre parce que du coup, moi j'ai trouvé qu'ils ont mis du temps, les commentateurs, à dire ce qui se passait. On comprenait rien, ça gueulait dans tous les sens. On voyait tout le public qui regardait à droite puis à gauche. Je savais pas ce qui se passait. Alors ils ont fini par dire qu'il y avait des beach ball, tout ça. Mais c'était drôle parce que le match a eu quelques moves hyper spectaculaires et quand il y a eu des moves vraiment spectaculaires, c'est oh, ça, t'as l'impression que les gens tout d'un coup ils se rendaient compte qu'il se passait un truc sur le ring et que oh putain, il venait de se passer un truc de ouf. Donc c'était assez particulier.
Et donc, juste après ça, on a eu la caméra qui arrive dans le parking de l'arène, puisque c'est Vince McMahon qui sort de la voiture. Vince McMahon, tout grisonnant et pimpant. Et puis, il arrive assez rapidement dans le ring. Hein, il y a une petite page de pub, je crois, à ce moment-là. Et puis, à son arrivée, bah... Alors, ce qui est drôle, c'est que tout le monde chante sa musique d'intro, hein. No chance,
no chance, yeah.
Et puis dès que la musique s'éteint, c'est Roman Sachs.
Roman Sachs. Ouais, il voulait lui faire passer une petite information, ouais. Je crois.
S'il le savait pas, s'il savait pas encore que Roman.
Bah, il le pense pas. Je pense que Roman Sachs.
C'est où Mais donc Vince est là pour. Déjà oui, bon, il rappelle que hier soir Stéphanie s'est pris un bon gros bump et elle sera pas là pendant quelques semaines. Le public applaudit. Hein. Après il leur dit mais vous êtes vraiment cruel. Enfin bref, il joue tellement là-dessus que c'est très 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 marrant comme séquence. Il annonce que la semaine prochaine il y aura un superstar shake-up. Parce que draft c'est trop ringard comme terme. Donc du coup, va y avoir des échanges de superstars la semaine prochaine entre Monday Night Raw et SmackDown. Un petit peu un classique de après WrestleMania généralement. Et puis il nous dit aussi, vu que Mick Foley a été viré et ma fille est pas vraiment en condition d'être là, et bah il nous faudra un nouveau GM. Ce nouveau GM, il vient d'être présenté au Hall of Fame. Et là, c'est Teddy Long qui arrive. Tech Team Playa. Il arrive à une vitesse de ouf. Il danse magnifiquement dans son costard. Il lui laisse bien 20 secondes de danse avant que Vince lui dise non mais Teddy, coupez la musique. Non mais Teddy, c'est pas toi. Et Teddy, il le timing parfait. Teddy, au bout d'un moment il s'arrête de danser, il le regarde, il fait my bad.
ok,
c'est autant pour moi. Et à toutes. Il repart.
Hola, hola, hola.
Il repart en dansant. Il n'y a même pas sa musique. En fait, il danse alors qu'il n'y a pas de musique.
Le moment le plus drôle depuis des années, quoi.
Ouais, magnifique séquence de Teddy Long. Hein. Je pense que c'est une de ses meilleures de son histoire.
Ah, c'est clair.
Et donc, Vince relance la présentation. Et il dit bon, je vais vous le présenter cette fois-ci. Le nouveau GM, c'est. Et puis il attend la musique et à chaque fois ça va être le nouveau GM. Bon, le nouveau GM c'est Kurt Angle, voilà, hein, c'est bon. Et au moment où il dit Kurt Angle, et c'est la musique de Kurt Angle. You suck.
You suck. Et ça n'a pas du tout la même portée que quand le public dit You suck à Roman Reigns. Hein. Pour ceux qui connaissent pas Kurt Angle, c'est presque affectif, c'est nostalgique quand on dit You suck à Kurt Angle. Ça faisait partie de sa gimmick pour de vrai. Voilà.
Mais oui, mais ça, c'est comme les petits mots que tu disais tout à l'heure, enculé, enfoiré, dépend, on le dit à un ami, ça passe pas pareil que quand on parle du mec qui a garé sa voiture devant chez toi ou un truc comme ça. Non, c'est le ton joue beaucoup.
Et donc, voilà, c'est un you suck totalement respectueux du public. Et puis Kurt Angle qui a des émotions, là, on le voit sur son visage, il est très heureux. Il a un bon costard gris, hein, il est en mode corporate. Et puis, il vient dans le ring et puis il dit, J'ai même pas noté ce passage, mais en clair, il dit juste voilà, je suis très content d'être GM ici et
true.
Un truc genre je vais faire du bon boulot. It's true, it's damn true, hein, la gimmick de Kurt Angle. Donc voilà, et puis il repart. Bon, vraiment, il a dit trois mots, mais tout le monde est très content d'être là. Tout le monde est très content qu'il soit là. Et donc juste après cette séquence-là, est-ce que vous voulez parler de Kurt Angle, parce qu'il va y avoir d'autres séquences avec Kurt Angle, mais.
Bah comme tu veux, rapidement pour dire que c'est cool d'avoir un nouveau GM qui est un ancien catcheur, qui en plus peut-être il y a des rumeurs comme quoi il aurait peut-être un ou deux matchs encore sous la pédale. Dans tous les cas, voilà, bah Kurt Angle, ça colle à l'actualité, il était Hall of Fame il y a pas longtemps là cette année, donc très cool de le voir. Je pense que ça peut donner un truc bien sympa, surtout s'il joue son gimmick un peu neuneux, un peu concon, ça peut être très 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 drôle. Donc moi je suis content aussi de le voir revenir, le grand chauve, mais le grand chauve, celui qu'on aime.
Pourquoi il y en a que t'aimes pas?
Bon, on s'en fout, allez Raph.
Ouais, alors moi pleinement Kurt Angle, connais pas du tout, hein. J'ai connu le catch trop tard, donc pour moi ce mec là est une découverte. Enfin, je sais qui c'est bien sûr, mais je l'ai jamais vu spécialement bouger, parler, etc. en direct. Il a l'air d'être effectivement content d'être là, et lui mettre une gimmick, bon, c'est pas celle de Mick Foley, mais d'un mec, voilà, qui pense business, professionnel, etc. D'ailleurs, c'est très très bien ficelé, je trouve, le coup que c'est pas Stéphanie qui le choisit, c'est Vince, c'est le côté un peu plus businessman, le famer, on place un gros nom. Donc c'était pas mal comme séquence, ouais.
Ouais, et on va voir dans la soirée que apparemment ils se sont pas trompés de candidat, parce que pour une première de GM, il était particulièrement ouais. Bon. Juste après ça, on a l'annonce, donc du coup que ce soir va y avoir un Owen Samoa Joe contre Rollins et Chris Jericho, mais ça on va revenir là-dessus. Mais c'est tout d'abord les New Day qui arrivent déguisés en footballeurs américain avec des espèces de pics qui sont faits avec des cornets de glace et donc ils arrivent dans le ring, ils parlent du fait que
c'était footballeur américain, ouais, peut-être.
C'était à moitié Dragon Ball footballeur,
ouais,
américain,
ouais, voilà.
Et donc Biggie parle du fait qu'ils étaient super excités à WrestleMania et que son sang est passé de sa tête à sa grosse blague et puis ils disent on aurait bien aimé être dans, enfin ça nous manque d'être dans des matchs, hein, des gros matchs, tout ça, et puis c'est pourquoi ce soir on va lancer à la John Cena un open challenge, donc voilà, qui veut faire face au recordman de tag team de la WWE.
Ouh.
Et puis là, il s'est passé quelque chose qui m'a fait lever de ma chaise et crier dans mon appartement et faire oh yeah,
yeah.
C'est les revival qui sont là, les revival best tag team of the world.
Yes.
Et ils viennent et ils sont vénères et ils tapent dans... Ah oui, parce que les New Day sont arrivés aussi avec une espèce de carriole pour vendre des glaces et les...
Comme d'hab depuis 3 semaines, ouais.
La démonte.
La défonce, ouais.
Et puis c'est parti, hein, c'est parti pour Revival contre New Day. Donc Wilder au début se fait mener par Xavier Woods. Alors c'est Xavier Woods et Big E, hein, des New Day. Donc Xavier Woods et Big E contre Dash et Dawson, des Revival. Donc si vous ne connaissez pas les Revival, et ben regardez notre dernière review de NXT TakeOver, ou même celle d'avant, hein. À chaque fois le 5 star match, il y a les Revival dedans. Donc Wilder se fait mener donc par Woods, mais Dawson arrive à taguer et prendre le dessus. Un peu plus tard, Big E arrive lui aussi à taguer et case 3 belly to belly à Dawson. Et il balance aussi Dash dehors, hein, il neutralise vraiment les Revival. Puis à ce moment-là, il a la mauvaise idée de retaguer Woods. Et donc là, c'est assez équilibré entre Woods et Dawson. Et Woods, en fonçant sur Scott Dawson, se prend par contre la shatter machine de Wilder, hein, qui venait intervenir. Et à ce moment-là, il perd le match. Je voulais vraiment résumer parce que le match est vraiment plus long que ça. Et après le match, les Revival vont carrément attaquer Kofi Kingston, hein, qui était même pas participant du match. Et puis ils le placent sur le ring et ils font leur petite combinaison pour lui casser le tibia, hein, un saut, je crois, de Dawson de la troisième corde sur le tibia de Kingston, histoire de bien le blesser. Premier match des Revival, une victoire contre les recordman des tag team. On est heureux.
Ah ouais, moi j'ai explosé quand j'ai entendu, effectivement, j'espérais tellement déjà aller voir un Mania. On a eu les Hardy, donc déjà c'est un souffle pour la division de tag team d'Euro qui était en mort cérébrale depuis des semaines. Là, le lendemain de Mania, voir en plus Revival qui débarque, mais ok, ils ont injecté de l'adrénaline dans la tag team division, un truc de malade quoi. Donc très très content, et surtout de voir qu'ils les mettent d'entrée les premiers soirs contre le New Day. Quel bon calcul, New Day, il n'y a pas des titres en jeu, donc c'est pas un problème, ça va pas te déranger ce qui se passe au niveau des titres, mais c'est comme tu l'as dit, les recordmen champions tag team, donc c'est pas n'importe qui. Ils arrivent, ils défoncent le chariot de glace, ils tabassent Kofi Kingston à la fin du match, qui n'est pas dans le match. Ok, ça place les personnages. Pareil, dans leurs interventions dans le ring, ils ont fait les partitions et qu'ils connaissent et qu'on aime chez eux, donc top, vraiment top.
Voilà. Beaucoup d'interventions, enfin le style Revival, c'est beaucoup d'interventions mais intelligentes tout le temps, des interventions qui durent genre 5 secondes et après on sort. C'est vraiment c'est le calcul mathématique, c'est les heals intelligents quoi.
C'est ça,
c'est genre l'inverse de nos précédents champions par équipe d'Euro quoi.
C'est ça, un petit peu malheureusement pour eux. Quand tu regardes les Revival, faut vraiment regarder les deux gars de Dawson et Wilder en même temps, parce que même s'il y en a un qui est pas dans le match, il va faire un truc à un moment donné quoi, donc c'est super fort.
Ouais, non, c'est le kiff, bah, c'est à ça que sert le road du lendemain dans WrestleMania. Putain, non ouais, super. Bon, un petit peu on s'y attendait tous un petit peu, mais ouais, très bien mené, très bien écrit, et ils ont vraiment été excellents pour jouer les heels, parce que le lendemain de Mania à Orlando, Florida, c'était évident qu'ils allaient avoir une putain de pop, mais quand même pour Worldwide, pour la télévision, le network, les gens qui le connaissent pas, bon, ils ont de suite montré que, bon voilà, c'est pour ça que Kofi Kingston a un peu mangé chaud à la fin, c'est qu'il fallait que ça finisse sur un truc où tu peux décemment pas les acclamer.
Oui, et c'est la heel parfaite, quoi, c'est les mecs, ils attaquent le gars qui était même pas dans le match, quoi.
Ben ouais.
Kingston qui est un vétéran, qui est le mec le plus populaire quand même de New Day.
C'est clair.
Ils auraient pu casser Francesca ou un autre truc, parce que le truc de glace, on s'en branle un peu. Hein.
Ah non, mais c'était tellement parfait. Ils sont arrivés, ils se sont même pas arrêtés. Ils ont mis un coup de pied dedans, un vilain coup de pied, ça l'a envoyé valdinguer, puis ils sont arrivés dans le ring quoi, avec leur blouson marqué hashtag Top Guys. C'est bon, ils étaient là, ils étaient dans le ring comme s'ils étaient là depuis le début, quoi. C'était à eux ce soir et ils ont assuré, donc.
Et ce qu'on dit pas, c'est qu'ils étaient pas au micro ce soir, mais ils sont très bons au micro aussi. Top guys, out. Ah là là, bordel, je suis tellement heureux. Bon, avec ce shake-up, je pense pas que Raw va garder autant de tag team de poids lourd, parce que là ils ont un roster quand même, ils commencent à avoir un petit peu le caviar, le caviar de la tag team.
Je suis assez d'accord, je pense que pour le shake-up, qu'il file je sais pas, R-Truth et Goldust et les Shining Stars à SmackDown, comme ça on aura une division tag team vraiment au poil quoi.
Ah bah non, moi j'ai vachement envie de voir les Shining Stars contre les Hardy par exemple. Non, je déconne.
En plus, on a déjà dû les voir, je pense, hein, les Hardys à l'époque contre les Primo et Pico, les Colon Brothers, j'en sais rien là.
Pas sûr. Contre Primo et Carlito peut-être.
Ouais, voilà, ouais. C'est pareil. Hein.
On va justement parler tag team, parce que en coulisses, Kurt Angle installe un peu son bureau, et puis là c'est Enzo et Cass qui arrivent, et puis ils font leur gimmick,
leur entrée.
Alors Enzo il dit à Kurt Angle, my name is Enzo Amore. En fait ils font toutes leurs gimmicks mais sans crier.
C'est
assez drôle. Et puis Kurt Angle à chaque fois il donne des réponses super drôles, genre Total premier degré, un peu hébété, enfin bref, du Kurt Angle.
Ça s'apprend.
Comment?
J'aime bien quand il répond, mais si, ça s'apprend. Quand il dit you can't utilize that, tu fais, ah ouais, c'est vrai, je connais pas d'école, on apprend ça, moi. How you doing? Oh bah, je vais bien, merci, super. Bah, c'est génial, voilà, le neuneu à l'excellence, ouais, c'est super.
Ça donnait l'impression que le mec, il a, enfin, il a pas vu Raw depuis 10 ans, quoi. C'est ça. Drôle. Du coup, on dirait qu'il est, voilà, il est à niveau zéro, il a pas de favori, il a pas de.
Et du coup, Enzo et Cass, ils se disent, ouais, bah, nous, on a de l'or, on a de l'or autour du cou, On est une tag team de fou, mais bon, c'est pas nous les champions. Pourquoi on a perdu hier? Pourquoi il y avait les Hardy? Enfin bref, est-ce que vous pouvez faire un petit truc pour nous, quoi? Et Angle, il dit, écoutez, pourquoi pas? Bah, je vous mets dans un number one contender match pour la qualification pour la ceinture contre Cesaro ce soir. Donc chez Miss et Cesaro, et ben on va passer directement à ce match.
Juste avant de passer au match, ouais. Petite phrase que j'ai bien aimée aussi à la fin, Cass finit par dire, on va montrer que ce sont des soft SWFT. Il se casse, ouais. Et là Kurt Angle qui dit, mais c'est pas comme ça qu'on appelle soft. Donc voilà, encore une fois, là, c'est juste un petit bijou.
Et puis il a tellement le timing, c'est-à-dire que la même blague, ouais. Il aurait pu la faire juste après la phrase de Enzo. Et ça aurait moyennement marché, ouais. Mais il a juste attendu, genre le mec qui réfléchit comme ça.
C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas connu Kurt Angle, il a la réputation d'être un putain de worker dans le ring, un catcheur de fou. Il a été médaillé olympique, le gars, donc c'est clair. Mais il a fait beaucoup de choses au micro en segment, sur du segment humour, notamment avec Edge énormément. Donc ce côté comique, le sens comique, il a vraiment cultivé pendant des années. Et c'est ce qu'on voit ce soir. Donc,
c'est un peu ce qu'il a dit dans son discours du Hall of Fame. Non, j'ai pas trop suivi, mais le côté vous prenez pas au sérieux, non, ouais. C'est pas. Ouais.
Certainement, en tout cas, ça lui ressemble.
Et donc ce Cesaro contre Enzo et Cass, ça commence avec Cesaro qui a déjà les faveurs du public, hein, le public chante son nom dans une espèce de chant qu'on n'avait jamais entendu, je pense, un peu en mode Bailey, genre Cesaro.
You wanna be my boy.
Sheamus est contre Big Cass, donc au début il se débrouille plutôt bien, même si il botche des spots sur la corde, hein. Il avait l'air super fatigué, Sheamus. Il se mange un peu, hein. Il arrive pas à tenir debout, quoi. Et Big Cass, donc du coup, Big Cass et Enzo combinent pour le neutraliser. Puis ensuite, Cass balance Cesaro dehors. On reprend après la pub avec Sheamus qui maîtrise Enzo par terre. Et le petit roquet se fait martyriser. Et pendant ce temps, le public chante Hey Sheamus and Cesaro. Et c'est très drôle et un peu bizarre. Et donc Enzo réussit à contrer Sheamus à un moment pendant que Cesaro et Cass se battent dehors. Cesaro arrive à taguer, fait un running uppercut sur Enzo. Puis c'est l'heure du Cesaro swing. Hein, cette fois-ci, il n'est pas interrompu. Cesaro case son sharpshooter, mais Big Cass arrive avec la Big Boot pour arrêter le Suisse. Cass enchaîne ensuite sur Cesaro et se fait bouer. Hein, Big Cass, il se fait vraiment bouer par le public. Il enchaîne son sidewalk. Oui, hué, boué. Sidewalk slam, puis ensuite Empire Elbow, hein, la combinaison de Big Cass habituelle, et la Big Boot. Je crois qu'il fait un tombé, mais seulement deux. Retax sur Enzo. Sheamus arrive pour arrêter donc du coup cette combinaison. Mais donc du coup le tag est quand même fait. Enzo se fait balancer par Sheamus au centre et c'est Cesaro qui fait le tombé sur Enzo Amore. Cesaro number one contender. On est heureux encore. On n'est pas heureux là. On n'est pas content.
Si. Et c'était super, vraiment surprenant d'entendre le public comme ils ont boué, comme ils ont hué Big Cass et Enzo. C'était première fois que les softs en main roster comme ça se font mais huer par le public. Hallucinant. Je m'y attendais pas perso.
Et c'est pour ça que je te dis, ils sont plus smart que smart, quoi, là.
Ouais. Donc voilà, mais là ouais, effectivement content, hein. les Hardys versus donc Cesaro pour le prochain pay-per-view, pour Payback, hein, très très probablement.
Old. C'est du gold, ça.
Ça peut être très bon parce que deux sites très différents. On a deux mastocs, deux super humains, le Suisse et le Irlandais, versus les frères voltigeurs qui prennent des risques tout le temps. Ça peut faire un truc sympa s'ils donnent suffisamment de temps pour que ces deux équipes mettent quelque chose en place de sympa. Ouais. Mais...
Je pense honnêtement, je pense que la division tag team a toujours droit quand même à quelques temps d'exposition, et là des mecs comme les Hardy qui vont quand même vachement utiliser pour vendre, là les frères Hardy, je pense que niveau royalties ça doit envoyer du lourd de les avoir récupérés.
C'est clair.
Cesaro et Sheamus, ça m'emmerde un peu, hein, parce que ça fait longtemps que je dis qu'il faut que ça serve de tremplin, surtout à Cesaro qui est très populaire et en solo il pourrait tout casser. Mais bon, ils marchent bien, ils interagissent bien. Mais bon, si on a envie de voir les deux équipes avec des ceintures, donc.
Ouais. D'ailleurs, est-ce que ça ne gâche pas un peu le suspense concernant ces deux équipes par rapport au shake-up, au draft? Parce que du coup, s'ils ont un match programmé pendant 3 semaines pour les tag teams de Raw, il y a des chances que les deux restent à Raw de toute manière. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Moi, je m'en plains pas d'avoir ces deux équipes à Raw dessus. Hein, je suis plutôt content.
Ouais, bon, de toute façon, il y a toujours des choses comme ça dans les drafts, à part quand ils font une séparation de Bren.
Le draft est très bien placé, justement. Ça arrive au lendemain d'un pay-per-view interbrand, donc il n'y a pas de problème de décalage.
Ils mettent déjà des rivalités, des matchs en place pour dans 3 semaines, donc 2 semaines après le draft, donc on sait déjà une partie des trucs. Mais bon, c'est détail. En tout cas, pour l'Hardy, pour revenir à ce que tu disais, Raph, c'est clair, quand ils vont, le fait qu'ils sont revenus, ça va être une belle mine d'or pour la WWE, puisque c'était Jeff Hardy, un gros seller de merchandising à son époque. Et d'ailleurs, en France, hein, c'était une interview il y a longtemps de Christophe Ajus qui disait que le catch en France avait dégringolé, en termes de public. Les gens avaient moins regardé à partir du moment où Jeff Hardy était parti de la WWE. Donc peut-être, on espère, ça va redonner encore plus de peps à la scène catchesque française. Donc,
oui, et puis catch-up est là aussi pour ça, quoi.
Ouais, on est là pour remonter le catch en France.
We go hard.
Mais attends, je vais dire un truc sur Soft. Moi, je trouve que Big Cass, il est un peu en train de devenir le distributeur de Big Boots, et il a plus que ça comme prise, et ça va peut-être me saouler un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. On a souvent dit de Big Cass, ouais, peut-être qu'en fait c'est un très bon big guy, mais là qui est un peu brimé en équipe, et il fait tout le temps la même prise. Moi, ça.
Je sais pas. Moi, ça me gêne pas, mais après, ça me gêne pas tant qu'ils sont pas mis en valeur, tant qu'ils sont pas tout en haut, quoi. Donc voilà, je préfère voir Enzo et Cass faire leur cirque qu'ils connaissent de A à Z que voir Shining Stars ou que voir Artruf et
Goldust.
Donc voilà. Et après ce match, donc qu'est-ce qu'on a eu après ce match? On a eu
Sami Zayn, non? Dans Sami backstage.
Zayn, oui, voilà. Fille, peut-être. Non. Ah oui, Sami Zayn.
Non, on a eu Sami Zayn. Donc du coup, Sami Zayn était un moment en coulisses pour parler à Kurt Angle, pour lui dire, pour dire bonjour déjà au nouveau GM, et pour dire oui, j'avais un très bon rapport avec Mick Foley, j'espère que j'aurai un très bon rapport avec vous, blablabla. Enfin bref, il fait le gros relou, quoi. Et à ce moment-là, en fait, il y a Jinder Mahal qui vient se plaindre de l'intervention là de Grunk ou Grunk, je sais
pas. Non, je ne veux pas écouter ça, je n'ai rien vu, ça n'a pas existé.
Donc voilà l'intervention de ce footballeur américain dans le Memorial Battle André the Giant de machin.
Truc, voilà. le gros bordel du géant.
Donc voilà, où il y avait 33 personnes et c'est Mojo Rawley qui a gagné et c'était un des pires matchs de la soirée. Et donc, Jinder Mahal, il s'est fait voler un peu sa victoire parce que vous voyez, il y a eu cette intervention et puis bon, forcément, il n'y a pas eu de disqualification ou quoi que ce soit. Et il était dans les deux derniers en fait, c'est Jinder Mahal. Et donc, bref, Jinder, il dit ouais, c'est pas juste, machin et tout. Et Zayn dit ouais, mais tu me coupes pas la parole, machin. Enfin bref, ça s'embrouille sur à peu près rien. Et finalement, Kurt Angle, il organise ce match. Donc Donc alors que Sami arrive sur le ring, le public chante à fond. Hein, Sami Zayn a une grosse grosse pop. Hein, mais alors que
bah, Orlando. Sami arrive,
ouais. Alors que Sami arrive donc du coup sur le ring en train de danser, et ben c'est Jinder qui l'attaque, hein, qui était arrivé avant, qui l'attaque direct avant le match. Sami se blesse au bras droit. Hein, ça continue à l'extérieur avec Jinder qui le balance Sami Zayn dans les marches. Et puis pendant le match, une grosse domination de Jinder Mahal qui est assez stiff et j'ai noté presque potable. Hein, je l'ai trouvé plutôt correct. Et puis quand après cette petite période de domination, je pense deux minutes, Zayn place gratuitement son love kick et puis c'en est fini de l'Indien, victoire de Sami Zayn. Donc voilà, hein, je pense pas qu'on devrait commenter ça parce qu'il y a pas vraiment grand chose à raconter.
Non.
Deux mecs qui restent à peu près dans les mêmes eaux. Encore que Jinder Mahal semble-t-il un peu poussé quoi.
Ah, ouais, Zayn aussi, hein, Zayn aussi, on le dit depuis des semaines dans le Catch of Pro, ça fait des semaines qu'il est dans des matchs pas dégueulasses, qu'il a des segments backstage, qu'il est mis en valeur dans des rivalités. Je trouve que Zayn aussi est poussé. Jinder Mahal est un bon worker et son retour est plutôt couronné de succès par rapport à ce qu'il faisait avant. Mais je trouve que là, c'est encore Zayn qui ressort fort. Et en plus, comme tu l'as dit, il avait une bonne côté le public puisque c'est Orlando, la ville de NXT, Zayn qui a fait des grandes heures d'NXT comme d'autres qu'on va voir ce soir, donc c'était très bien de le mettre dans ce match là et en plus il reçoit les compliments du GM, hein, de Kurt Angle, qui pour moi la chose à retenir de tout ça, c'est Kurt Angle, son alignement clairement en tant que GM, c'est face plus ou moins, parce qu'il dit à Sami Zayn, ouais, tu as les 3 I qui font un bon catcheur, tu es intelligent, tu es intègre et tu es intense dans le ring, donc vas-y mon garçon quoi.
Mais il lui dit quand même ça, on voit dans son regard juste après quand Sami Zayn se retourne, il lui dit quand même ça pour qu'il casse quoi, il dit va, tu voulais tes compliments, c'est bon.
Moi je pense peut me tromper, hein, que le push que reçoit Jinder Mahal, c'est peut-être le programme qu'aurait dû avoir Rousseff s'il était pas blessé. Je me dis ça parce que je vois pas pourquoi, enfin, franchement, je sais pas, moi je me retrouve pas trop dans vos lauriers. Enfin, Jinder Mahal, il me fait chier un peu.
On a dit que c'était correct. C'était correct, il fait le job.
NXT, vous avez vu qu'il revient à NXT?
Qui ça? De quoi?
Qui revient à NXT qu'on a annoncé?
Bah oui.
Un écossais. On va pouvoir voir le retour des 3MB. Non, je dis ça.
Je pense pas que Monsieur Drew Galloway... McIntyre va se passer avec les 3MB. Je pense que c'est signalé sur son contrat, hein, qui a bien spécifié aucune reformation de tag team de merde. Donc du coup voilà.
Il avait une belle tag team avec Cody Rhodes.
On va pas passer 100 ans sur ce match non plus.
Non.
Ce match prévu Owens Samoa Joe contre Rollins et Jericho, mais ça, on a un moment un segment avec Caruso, je sais plus que son prénom,
Charlie la charmeuse
qui du coup demande à Jericho une question banale, qu'est-ce que vous comptez faire après votre défaite contre Owens hier à WrestleMania, et puis Jericho répond un petit peu en mode positif, genre oui, mais ça me préoccupe pas, moi ce qui me préoccupe c'est les fans ici qui sont bouillants, on est au Raw post WrestleMania, il y a les amigos de Jericho,
mes amis de Jericho.
Il y avait aussi les amis en japonais, mais je me souviens plus ce que c'était.
Tomodachi
de Jericho.
Of Jericho, bref, ouais.
Il est magnifique. À un moment, il parle donc du coup de ce spot, hein, qui a marqué tout le monde dans Owens Jericho où Owens a coupé un tombé avec un doigt comme il est en train de le montrer Armbar, avec son, je sais plus si c'était son petit doigt.
C'est l'index.
C'est avec l'index, donc du coup il a coupé un tombé de façon assez ridicule ou géniale selon le point de vue.
Génial.
Et donc Jericho dit vous savez ce qui se passe quand un petit doigt comme ça empêche Jericho de gagner après avoir pas avoir fait son code breaker petit doigt you just made the list. Et donc du coup voilà, il met le doigt de Owens sur la liste. Bon, après toutes ces conneries, et ben Owens il arrive et puis il le démonte. Il arrive là comme ça dans les coulisses et puis il le balance comme ça dans la salle qui est derrière là où il y a pas mal de caisses de rangement, etc. Et puis Jericho arrive quand même à reprendre vaguement le dessus juste avant que Samoa Joe arrive et puis là c'est du gang organisé. Donc du coup
la violence.
Il se fait massacrer hein. Et puis un peu plus tard dans la soirée,
une powerbomb à travers la table hein.
Voilà, ouais, powerbomb à travers la table. Et puis un peu plus tard dans la soirée, on aura Rollins qui croise Kurt Angle qui dit Kurt, il se passe quoi avec Jericho, il va mieux machin et tout, et puis Angle il dit bon bah on est encore en train de voir, mais au pire s'il est pas dispo bah on trouvera quelqu'un, je t'assure et tout. J'aime bien comment dans cette séquence ils se parlent comme s'ils étaient potes depuis 5 ans et tout, alors qu'il vient d'arriver le GM, mais bon on s'en fout. Et puis donc du coup il y a cette présentation des...
Tu veux pas qu'on parle des matchs des filles d'abord? Parce que ça, c'est le dernier match de la soirée.
Ah oui.
On garde le main event pour le main event.
Ah bah oui.
Bon, bref. Donc, sachez qu'il y aura un invité mystère. Jericho va parvenir. Le match... Il y a une séquence, oui, donc du coup, avec les filles... séquence formidable aussi, mais bref. Bailey, arrive... Et donc du coup elle doit catcher. Et puis il y a dans son équipe, en fait on annonce une sorte de tag team à 3 contre 3 pour ce match. Donc du coup il y a Bailey. Et puis ensuite il y a Dana Brooke. Alors ça c'est le truc un peu bluffant. Donc du coup Dana Brooke a fait un face turn dans les coulisses.
Ah bah non, oh. Elle a tapé Charlotte.
Bon, elle a tapé Charlotte. Non mais elle a tapé Charlotte, mais je veux dire elle a fait que ça quoi. Elle a juste tapé Charlotte. C'est pas comme si
ça
elle
suffit.
Était. Et là quand Dana Brooke arrive, c'est la meilleure pote de Bailey. Bon, je suis très content pour Dana Brooke. Et donc Sasha Banks qui arrive, et donc du coup tout va bien. Hein. Sasha Banks Bailey, c'est toujours l'amitié forever. Et puis les heels arrivent. Charlotte d'abord, magnifique entrée comme d'habitude. Hein. Nia Jax. Et bordel, il y a Emma. Il y a Emma qui arrive en mode badass wayfarer cuir sans moustache.
Épaulette.
Cure et épaulette, elle monte sur la table des commentateurs, elle fait son petit mouvement de bassin, tout le monde est en émoi. Corey Graves surtout, hein, Corey Graves, un grand fan de Emma. Bref, on est tous super contents. Et puis donc du coup ce match, si j'arrive à réouvrir mon fichier, voilà, ce match. Donc c'est un début avec Brooke contre Charlotte pour revenir un petit peu à la voilà à cette brouille qui était la dernière fois qu'on a vu Dana Brooke finalement contre Charlotte. Charlotte très rapidement va taguer avec Emma. Et puis là on se retrouve donc du coup avec Brooke contre Emma, et pour tous les gens qui ont suivi NXT, Dana Brooke,
ça parle.
Voilà, Dana Brooke en fait c'était la seconde de Emma, c'était sa meilleure copine, elle avait presque un rôle de manager finalement. Donc voilà, il y a une histoire derrière. Donc après ce petit face-à-face, on a Brooke qui tag Bailey, donc Bailey contre Emma.
Parce qu'Emma la réclame.
Voilà, et Emma domine salement Bailey. Hein. Vraiment, elle se prend des sales coups, Bailey. Elle arrive quand même à un moment à prendre le dessus, à faire un spinarouni sur la gueule de, ah oui, de Emma. D'ailleurs, Corey Graves.
Il a détesté.
Voilà, Corey Graves, un petit peu la voix des fans, dit c'est ça qu'on veut voir de la championne, hein, une danse sur son adversaire. Et puis après la pub, c'est Charlotte qui du coup massacre Bayley. Hein, Charlotte a pris le relais. Et Emma se tag une nouvelle fois. Et elle en profite pour tirer la queue de cheval de Bayley. Hein. Charlotte reprend le relais. Hein, c'est vraiment genre le massacre de Bayley dans le coin du ring. Elle lui fout des sales coups dans les hanches. Et puis au bout du compte, Bayley réussit à balancer Charlotte hors du ring. Elle est à deux doigts de taguer Sasha Banks, mais Charlotte fait tomber Sasha Banks juste à l'extérieur du ring, juste à temps. Et puis elle remonte dans le ring. Bayley retente le tag retenu par Charlotte, mais elle arrive quand même de justesse à toucher la main du boss. Banks accélère un petit peu le rythme du match. Elle enchaîne les coups, les double knees sur Charlotte. Et puis ça commence à devenir le bordel parce que tout le monde veut intervenir à droite à gauche. Bayley saute du ring sur Nia Jax à l'extérieur en crossbody. Charlotte est au milieu avec Banks et puis Sasha qui arrive au final à caser son Bank Statement et à faire taper l'ex-championne Charlotte. Ça c'est, je comprends mes désirs pour des réalités. Donc du coup Banks fait taper Charlotte. Et par contre, j'ai noté aussi, on annonce les gagnants sans citer Dana Brooke. Ça, j'ai trouvé ça quand même assez. Elle doit avoir un peu la rage et je trouve ça vraiment assez irrespectueux pour elle. Mais voilà, un match fort efficace, j'ai trouvé. Même si on oublie totalement ce Bayley Sasha Banks, j'ai l'impression qu'ils sont repartis en arrière là.
Après il y a le segment aussi après le match, hein, donc du coup il y a Charlotte qui est complètement furieuse de la défaite et qui reproche à Emma et Nia Jax, et puis Nia Jax pète un plomb et envoie Charlotte dans le coin et lui fait un porté de je sais plus quel coup, bref Nia Jax qui pète la gueule à Charlotte qui supporte pas qu'on lui parle mal. Emma elle se casse, hein, elle fait oh là moi je veux pas d'embrouille, hein. Donc Nia Jax se casse en étant vraiment dominante et Charlotte avait presque l'air désespérée à la fin de craquer comme ça. Donc je pense qu'en fait ils vont profiter du shake-up comme ils disent pour un peu redistribuer les cartes au niveau de la tag team division d'Euro et peut-être casser la trinité Banks, Bayley, Charlotte.
Peut-être que ça s'est décidé il y a assez peu de temps, ce départ sûrement de Banks à SmackDown ou
Charlotte,
un truc,
hein.
Ou de Charlotte. Il doit y avoir quelque chose comme ça, quoi.
Moi, je l'ai compris comme ça, ouais. C'est, on fait un petit, de toute façon, c'est souvent comme ça, hein. Les tag teams, ça fait pas avancer grand chose. Donc, on a eu le retour d'Emma qui était très très plaisant. Ça fait plaisir de la revoir. Effectivement, là, pour moi, ça va être le stand-by jusqu'à la semaine prochaine. Moi, j'ai, peut-être que, je sais pas ce qu'on va faire avec Charlotte. Moi, je me dis, ça fait quand même, des mois, voire plus d'une année qu'elle arrête pas d'être championne. Je pense qu'elle a quasiment été tout le temps là. Donc, la voir se faire défoncer, là, pour moi, j'ai, comme t'as dit, désespéré. Donc, ça serait un bon moment pour partir un petit peu en vacances pour elle, je pense.
Ouais, puis ça met en avant, effectivement, une autre heel, Nia Jax, qui clairement la prend la succession pour être la heel dominante de la division. Enfin, c'est l'impression que ça donne, et tant mieux.
Ouais.
Et peut-être qu'on aura, effectivement, Nia Jax versus Bayley pour un titre bientôt avec, voilà, bref. Programme qu'on a vu à NXT qui était vraiment, vraiment sympa, donc moi j'achète.
Mais pas de la Asuka, contrairement à ce que tu espérais.
Pas de quoi ? Pas d'Asuka. Oui. D'accord. Non, mais je l'ai dit sur Twitter, Asuka, si ça se passe, ça se passera cet été parce qu'il y a le tournament des filles où ils vont ramener au moins 4-5 filles. De ce tournoi dans NXT, je pense. Hein.
Ouais.
Donc,
elle est encore championne à NXT, donc du coup.
Voilà, elle est encore championne, elle a encore sûrement une revanche de Ember Moon prochainement. Je pense que Ember Moon est la prochaine championne, donc.
Oui.
Donc voilà. Parlons de ce main event.
Oui,
Donc Owens et Samoa Joe contre Seth Rollins. Et le dernier qui arrive,
wouh,
eh bien c'est C'est Finn Balor. C'est Finn Balor qui arrive tout du cuir vêtu. Tout le public l'attendait. C'est un petit peu le retour, le truc le plus entre guillemets prévisible de ce Monday Night Raw. Mais voilà, on est content de le voir. Tandis que Armbar est en train de faire.
Non, mais il est possédé, ça y est.
Armbar est en train de faire du mime. Hein, si vous entendez la version audio, désolé, n'hésitez pas à passer sur YouTube pour voir ça.
Mais donc, oui, qu'est-ce que vous attendez
C'est un peu, donc du coup, le retour prévisible de la soirée, mais ça fait plaisir. Et puis, les commentateurs rappellent que tous les intervenants de ce match sont liés. Et c'est très, 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 très vrai, puisque on a, donc du coup, Kevin Owens. Donc du coup Kevin Owens bah, qui a eu des matchs contre Balor.
Balor, hein. Kevin Owens était champion NXT et Balor lui a pris le titre.
Balor, voilà.
Match, ouais, à chaque fois.
Ensuite donc du coup on a eu Balor contre Samoa Joe, Joe qui a pris le titre à Balor. Donc voilà, et puis Rollins c'était le premier champion de NXT, voilà.
Et surtout c'est que Rollins soit le premier champion, donc les quatre sont champions NXT, donc pour un, un Orlando c'est quand même la classe, et aussi bah, cette Rollins c'est celui qui a blessé dans son match il y a plusieurs mois Finn Balor, donc là
voilà.
Aussi...
Il y a ça aussi, mais bon ça par contre je pense que la WWE préfère qu'on l'oublie. Mais donc ce match c'était Rollins qui dominait contre Owens ce début, mais lorsque Samoa Joe prend la main, Rollins s'en prend vraiment plein la gueule. Faut pas oublier que Rollins est toujours blessé hein, de la veille hein. Corey Graves appelle Owens le visage de l'Amérique hein, parce que Kevin Owens veut qu'on l'appelle comme ça maintenant, The Face of America. Rollins arrive à se sortir des coups d'Owens pour taguer Finn Balor. On a un Balor contre Owens qui est très très attendu quoi. Balor est vraiment rapide, précis, ses dropkicks par terre hein, quand Owens est par terre, il se place pour le coup de gras assez rapidement, mais Owens va hors du ring. Seulement Balor bah, il court comme un cabri et puis il va lui foutre hein, une sorte de missile dropkick à l'extérieur du ring. On revient au centre, Balor soumet Owens mais ça fonctionne pas, et puis après il tag Rollins. Qu'est-ce que je dis, il soumet Owens, il prend Owens comme ça donc du coup il le bloque et il tag Rollins pour une combinaison, mais à ce moment-là Owens une nouvelle fois sort du ring. Rollins se lance à ce moment-là donc du coup dans un suicide dive sur Owens à l'extérieur. Il revient dans le ring avant que Joe arrive à le choper hein. Joe qui est vraiment ça c'était une belle beau passage psychologique du match hein. Joe qui était à deux doigts de choper Rollins quand il remonte dans le ring, et donc Rollins refait c'était pas vraiment une suicide dive, c'est une sorte de flip je sais pas si c'est un bref 450 ou je sais pas quoi, et donc
le chasing tape,
il se tape les deux heels, voilà, il retombe sur les deux heels, il revient encore plus blessé hein, dans le ring. Owens vise la blessure, il le plante en DDT. Ensuite c'est Joe qui reprend, échange de pain avec Rollins, le public chante la musique de WrestleMania, on sait pas pourquoi, tandis que Owens moque Balor et massacre Rollins. Des coups au sol, un senton, le public gueule stupid idiot.
Ouais.
Joe reprend la main et démonte la jambe de Rollins qui tente désespérément de taguer depuis 2 minutes. Il est au sol vraiment en souffrance hein, il bouge quasiment plus. Après 2 senton, Rollins évite le 3e, réussit après beaucoup de souffrance à lancer un enziguri sur Joe. Joe qui tag Owens, Rollins qui tag Balor. Finn maîtrise totalement la situation, il kick à tout va sur Owens et Joe, et Owens réussit à choper Balor en pleine course pour le plaquer à terre, mais seulement 2. Balor, lui, il case un sling blade, alors que Balor allait finir Owens, Joe intervient, tout le monde se fout des coups, ça finit avec Balor qui lance son coup de gras sur KO, victoire de Finn Balor et Seth Rollins. Surtout victoire de Finn Balor, hein, finalement.
Alors, c'est coup de grâce, hein. Oui, les Américains disent mais... coup de quoi, mais c'est pour nos amis francophones, c'est des coups de grâce. Je sais bien, mais si vous précisez. À chaque fois, ça fait marrer, j'entends.
Si vous remontez à une très vieille review que j'ai dû faire de NXT, j'ai dû sortir, oui, ces cons d'Américains, ils disent coup de grâce. Ou c'est une review écrite, en fait, où quand je reviewais NXT à l'époque, il y a 6 mois. Et donc, du coup.
Il y a si longtemps déjà, moi.
Du coup, voilà, maintenant je l'appelle comme ça parce que bon. Ouais. Ils le disent.
Ah, c'est comme ça qu'ils disent, hein, c'est clair.
Voilà, je vais sortir très rapidement mon avis. C'était un très beau match. Beau retour de Balor, impeccable. Je suis très content. Et ça finit un magnifique, magnifique round.
Ouais, c'est clair, hein, les quatre ont bien marché ensemble, le duo de gros balèzes, gros bras, gangsta limite, tueurs de la mafia que sont Owens et Kevin Owens marchent bien, Samoa Joe et Kevin Owens, pardon. J'ai bien aimé la fin, l'enchaînement où tout le monde s'envoie leur coup, la tentative de powerbomb, le super kick, la coquina clutch, le coup de grâce. C'est très très bon, une partition qu'on connaît, mais c'est plaisir de les voir aussi, bah, tous les quatre, hein, ces quatre champions de NXT. Très cool, et voilà, et le retour de Finn Balor qui clôt ce Raw qui est juste qui était fou, quoi, enfin qui était un super show. Voilà, on a eu des comebacks, on a eu des arrivées, enfin c'est génial, vraiment un beau match pour finir en beauté, j'ai trouvé.
Ouais, bah effectivement, comme nous l'a dit Hank, hein, c'était un retour hyper attendu, mais parfois ce qui est attendu, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Ça se passe, et vraiment, et on attend, et il y a toujours ce moment où tu t'hésites tant que t'es pas sûr, hein. Tu dis bah bon voilà, ça semblait préparé, mais non, c'est vraiment très bien et ça fait super plaisir de revoir Baylor. C'était un très bon match et en plus
Ouais. Désolé de te couper, juste le dernier truc que j'ai pas précisé. Balor, premier champion universel.
Oui.
Owens, second champion universel. Donc.
Oui, mais celui au plus long règne, monsieur.
Troisième, laisse faire quatrième. Ouais, non, mais. Et puis, les débuts, justement, de Baylor à Raw l'an dernier, ils avaient été un peu bizarres. Il avait eu une espèce de push en une semaine. Il battait,
Roman Reigns.
Roman Reigns.
Seth Rollins aussi.
Et il avait battu tout très vite et était devenu champion universel, un titre qui n'existait pas très très rapidement. Donc en fait, sa blessure, ça remise à zéro. Et là, on sent bien que bah, les prochaines semaines, il ne va pas partir dans une title picture de suite. Donc ils vont avoir le temps et j'espère qu'ils vont bien le faire de construire le personnage et entouré de tous ces excellents catcheurs d'NXT, d'anciens NXT, ça devrait être du très bon. J'ai lu par-ci par-là, ouais, qu'il y avait des gens qui regrettait un peu que Rollins et Balor soient super copains alors que bah y en a un qui a cassé l'autre il y a 8 mois. Moi ça m'a pas dérangé dans le sens où vraiment Balor il a été blessé dans le match, quoi. C'est-à-dire c'est pas si Jericho revient dans 3 mois pour aider Kevin Owens, ouais ça me dérangera parce qu'il a clairement été défoncé exprès par pure méchanceté, alors qu'on n'a jamais eu, même si Rollins c'était heel, il n'y a pas eu une écriture de ce match de SummerSlam l'an dernier, comme quoi Rollins avait fait exprès de forcer sur la blessure ou quoi que ce soit. Donc ça me dérange pas tant que ça, quoi. C'est le sport, monsieur l'arbitre, ça arrive, il l'a blessé, mais c'est pas grave. Donc super fin et ce quatuor là, je ne sais pas s'il va rester à Raw. Je pense que c'est justement exprès un petit quatuor, enfin une petite fin qui prête pas du tout à conséquence. Il y en aura peut-être un drafté. Pas du tout, je ne sais pas. Mais ouais, ça c'est des main eventers auxquels on adhère totalement.
Non, bah là on a quatre gars. Bon alors Balor peut-être moins, mais on a quand même quasiment au moins 3 gars sur 4 qui sont capables de main eventer Mania. Hein. Enfin moi je. Ouais.
Balor aussi je pense.
On
verra avec l'avenir, mais ouais, ouais.
On va quand même attendre.
Il a potentiel.
Mais ouais. Juste pour l'histoire de Balor Rollins, après, on peut aussi dire que bah, Balor il a gagné son match hein, contre Rollins aussi. Hein,
donc, oui, voilà. Donc en plus, il a été blessé, il a rendu le lendemain. Ça, mais on aurait vu Rollins lui foutre des coups dans le vestiaire, ok, mais
là, non. Franchement, c'est se prendre un peu la tête. Voilà. Et surtout qu'ils ont sauvé Rollins la veille à Mania. Ils lui ont enfin sauvé son personnage. Donc bon,
oui, bien sûr.
On va peut-être pas remuer les couteaux.
Non, mais j'aime bien le fait qu'à la fin, quand même, les deux, Balor et Rollins, ces deux vainqueurs du match, se regardent un peu interdits, genre, ok, on est potes, on n'est pas potes, on a gagné ce soir, mais c'est quoi la suite? Donc, il y avait quand même un peu en psychologie, en 10 secondes, du centre de regard, ce côté de, ok, on n'est pas les meilleurs amis du monde, on va pas manger du marshmallow autour d'un feu, quoi, c'est genre, ok, on est quand même concurrents, quoi.
Ils feront peut-être une référence à ça la semaine prochaine.
Peut-être.
Si possible.
On va voir ce que va donner ce milkshake.
Bon vieux milkshake. On va passer à la. Comment ?
Au mot de la fin.
Le mot de la fin, voilà. Je perds mes mots. Donc, un top, un flop, une note. On va commencer avec monsieur Raphaël. Qu'avez-vous pensé de ce Monday Night Raw ?
Ah bah il y avait plein de top hein. C'était un très bon show, un très bon Raw du lendemain. Ils sont souvent épiques, mais alors celui-là était très bon. Donc difficile de sortir un top, mais parce que ça me fait toujours hyper plaisir de le dire et de le redire et de le réécrire, que je m'y fais pas encore. Les Hardys sont là, donc putain, les Hardys sont là et c'est un top. Le flop, qu'est-ce qu'il y a comme flop? Je sais pas trop. Peut-être cette situation un petit peu bizarre de Lesnar, ce positionnement un peu on désigne nous-mêmes notre rival et puis finalement c'est Strowman qui se pointe et ça promet des choses, mais c'était pas ça faisait retomber un peu le soufflet autour du titre universal, donc bon, c'est peut-être un peu moins bon. Mais ce show mérite un 4 sur 5, voire même un 4,5. Tiens, allez, montons à 4,5. Ouh, ça y en fout.
C'est en bas.
Alors mon top, évidemment, The Revival, hein, ça y est, mais là, ça fait longtemps que j'avais pas autant, mais explosé, voilà, j'avais pas explosé devant la télé, même en le savant, même en se doutant qu'ils allaient arriver, le fait qu'ils arrivent de les voir là sur Raw, ok, c'est juste génial, voilà, donc vraiment beaucoup d'espoir de les voir en main roster. Le flop, pas évident à trouver, il y en a relativement eu peu, le Raw a filé à une vitesse folle, alors que d'habitude, on va le sentir passer, là, c'était du caviar, limite. Donc le seul bémol, c'est un peu comme dit Raph, la situation au niveau de la ceinture universelle, surtout que ben on l'a dit sur les 4 main eventers de la fin, Balor et Owens, les deux ont droit potentiellement normalement à un rematch pour le titre universel et ils sont pas dans la conversation. Il y a Lesnar qui a le titre, il parle de Reigns, Strowman arrive, mais les deux qui ont des rematchs légitimes, ils ont autre chose à faire. Donc ça c'est un peu, c'est vraiment
pour milkshake, ça.
C'est le milkshake qui a foutu le bordel. Alors c'est
point ouais, mais
c'est chercher la petite bête, mais voilà, si vous trouvez un flop, ce sera ça, et ma note, ce sera un 4,5, je vais pas mettre 5, parce que c'est compliqué de mettre un 5, mais vraiment, c'était un Raw génial. Parfois, le cash, c'est chiant, mais quand c'est bien, c'est génial, bah ce soir, c'était génial.
Je crois que c'est l'un des, voire le meilleur Monday Night Raw que j'ai vu, moi, de ces 4 dernières années. Je me souviens pas de Monday Night Raw où toutes les 10 minutes, enfin peut-être pas toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes, j'étais genre waouh.
Oh, il y a eu des gros Raw du lendemain quand même, celui de WrestleMania 30, attends, c'est celui-là, bah il y a les débuts de Paige, il y a les Shield qui commencent à entrer en fait contre l'évolution.
C'est une question de peut-être aussi de connaissance du paysage catchesque, tu vois, j'en suis à un stade où quand même je sais tout ce qui se passe à NXT, voire un petit peu de ce qui se passe en dehors de la WWE, donc du coup il y a encore plus de choses du coup qui nous excitent dans ce qui peut arriver. Et donc voilà mon top. Je peux pas mettre autre chose que les Revival. Je peux pas mettre autre chose. J'ai sauté, vous voyez juste derrière chez moi là, devant ces posters, j'ai sauté comme un enfant. C'est mon dieu. Ça a beau être, j'aurais pas dit attendu parce qu'ils avaient perdu, mais ils ont perdu en même temps que DIY.
Et puis on sait jamais, on n'est jamais sûr, donc.
Et voilà. WWE aurait très bien pu faire monter DIY et pas Revival aussi. Donc
c'est
voilà.
Plus logique. Vu que les Hotter of Pain sont quand même heal et que les Revival sont meilleurs heal. Mais c'était très 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 probable qu'il y en ait une des deux qui monte, mais effectivement.
Ils sont revenus parfaitement, le match était parfait, tout était parfait. Le flop, franchement, c'est pas pour faire moment exceptionnel ou quoi que ce soit. Pour moi, il y a pas de flop en fait dans ce rôle. Il y a peut-être des moments qui sont moins exceptionnels. Lesnar, moi j'ai trouvé ça totalement correct, logique de s'en prendre à Reigns. L'arrivée de Strowman, c'est du teasing. On sait pas encore si c'est bon ou mauvais, mais pour l'instant, moi ça me plaît. Le reste, tout va bien. Il y avait Emma. Il y avait
Jinder Mahal.
Il y avait Kurt Angle. Il y avait Sami Zayn qui gagne. Mais Sami Zayn qui gagne.
Non, ces dernières semaines, ça arrive.
Sami Zayn qui gagne un match.
Ce qui est très bien aussi, moi j'ai bien aimé la gestion du cas Jericho qui a priori devrait disparaître pour quelques semaines. Mais c'est pas comme avant quand il partait, on savait pas trop.
Ouais, voilà.
Là il part.
Et la promo de Jericho était géniale aussi.
Jericho est génial et il part en donnant pas l'impression qu'il veut partir comme avant, c'était plutôt ça. C'était bon, bah j'ai fini ma pige.
Et tout ce qui s'est passé en interview au micro pendant toute la soirée était bon, les commentaires étaient très bons, le public était des moments limite menaçants mais souvent assez drôles, magnifique quoi. Et donc c'est pour ça que je donne pour la première fois de l'histoire du Cachu Pro à quelques jours de la première année, enfin de l'anniversaire de notre podcast, Five stars. C'est five stars pour ce rôle magique, des retours, des nouveaux, de l'action, de l'intrigue,
de l'émotion,
du spectacle,
la vie quoi.
T'es là dans ce rôle, bravo.
De la haine.
Bravo la VVE, bravo.
Et merci, bravo Roman Reigns, excellente prestation. Non, tout le monde a été très bon.
Voilà. On attend que vous ruiniez tout la semaine prochaine avec votre shake-up. Mais on va voir ça.
On prend des paris pour des drafts éventuels ?
Oh non, pas
non,
le
on
temps.
On le fera une autre fois.
On n'a pas le temps. Ça, c'est bien trop compliqué. On ne sait pas qui, qui est concerné par ce truc.
Tout le monde.
On ne sait même pas ce que c'est qu'un shake-down, d'ailleurs. Ou shake-up.
Alors, shake-up.
Est-ce que vous avez pris attention à l'image qui est passée un moment, justement Parce que c'était un peu teasing, c'était un peu spoiler. Parce qu'il y avait plein de têtes des rosters. Mm-hmm. Et côté Raw, on voyait Balor.
Ouais.
Alors que côté SmackDown, on voyait pas Zack Ryder, par exemple. Ça sentait venir. Et puis, bizarrement, côté Raw, il y a Neville et Harris, donc qui a priori peuvent être draftables, mais il n'y a pas. C'est bizarre.
Ça me paraît compliqué, ça.
Ouais.
Bon, non.
Bref. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés ou regardés. On a toujours plus d'abonnés sur YouTube et on est toujours plus contents. On vous remercie énormément de nous regarder, de commenter, de liker. Même si vous commentez ou vous likez pas, juste vous écouter, on vous remercie quand même. Et vous pouvez nous écouter donc du coup sur YouTube, sur iTunes, sur PodCloud. Donc là-bas, je crois que vous pouvez télécharger même le podcast. On essaie de plus en plus de tout filmer. On sait que le supplément SmackDown est filmé en permanence, mais nous, à Monday Night Raw, on a un peu du mal. Hein, on a des problèmes techniques, mais on essaye, on fait des efforts. On a aussi notre gage. Et oui, on a eu notre gage après WrestleMania où on a perdu de ma faute, hein, je pense. Clairement.
Moi, j'avais vu, il est gagné, moi.
Oui,
et
voilà. Donc notre gage, c'est tout simplement de faire une review de Impact Wrestling, la TNA, la maison des Hardy, l'ancienne maison des Hardy. Et donc on va faire ça le plus rapidement possible. Ça va sûrement pas être cette semaine, mais ça va être sûrement la semaine prochaine parce qu'on est fort occupés hein, tous. On n'oublie pas. Et donc ça va continuer avec le prochain pay-per-view Interbrand. Je ne sais plus lequel c'est. C'est SummerSlam tout simplement. Donc voilà, le gros show, c'est un des trois gros shows de l'année. Donc, Big Four. Le Big Four.
Comme avec
Metallica, tout ça. Bon bref, on vous souhaite une très bonne semaine. J'ai oublié de dire merci à Monsieur Raphaël. Merci. Raphaël.
Ouais, merci à toi. C'est un plaisir. Quel rôle. Je reviens quand tu veux pour la même chose. Hein.
Et merci Monsieur Ambar.
Say yeah.
Yeah. On vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch. Soyez heureux parce que là c'est C'est exceptionnel, on sait pas combien de temps ça va durer. Allez.
Nous le sommes.
Bisous.
Carpe diem.
Salut.
Ciao.